Radio Jenny, la plus rebelle des radios.
Bonsoir.
Et bonsoir. Ah, attends, j'ai un souci de casque.
Alors, eh ben, ce soir, nous allons parler de...
Ah ouais, ça y est, je t'entends.
De Areva qui falsifie les tests sur la sécurité des centrales.
Appel à la délation pour les contrôleurs des bus de Caen.
On va pas faire un petit tour en Turquie où Erdogan va toujours plus loin sur le chemin de sa dictature.
On aura un reportage sur la grève dans les cantines scolaires lyonnaises.
Ensuite, on a une belle promesse socialiste avec la France qui ne signera pas le TAFTA. Cette fois-ci, c'est vrai, c'est promis.
Les comparutions immédiates du lundi.
Et on vous déconseillera vivement d'aller à une manif.
Et puis on dirait qu'on va terminer par un petit agenda, comme ça nous arrive quand on est en forme. Alors grâce à l'industrie française, on va tous crever, mais pire que tout, on va tous crever au chômage.
Ah, bon, moi,
bon alors l'info, la vraie, c'est celle-là. L'autorité de sûreté nucléaire nous a dévoilé lundi ou mardi, je ne sais plus, que 400 pièces produites dans l'usine Areva du Creusot ne correspondraient pas à la réalité et parlent d'une falsification des résultats des tests de contrôle de qualité.
On parle du nucléaire. Hein.
50 de ces pièces seraient en service sur le parc électronucléaire français, c'est-à-dire dans les centrales nucléaires. Ajoute la même source, mais bien sûr, on ne sait pas du tout de quelle centrale précisément il s'agit. Donc il y a des pièces qui ont été produites par une usine, le contrôle de qualité a été totalement falsifié, on ne sait pas si elles vont péter ou pas, et elles sont en service dans des centrales nucléaires. Les composants métalliques en question, qui pourraient donc s'avérer fragiles, hein, on pourrait dire, sont des trucs qui sont tout particulièrement sensibles au vieillissement sous l'effet du bombardement des neutrons auxquels ils sont soumis toute la journée, toute la nuit, toute l'année.
C'est vrai qu'on rigole, mais quand même.
Ouais, c'est ça. Certains de ces composants, comme les cuves, ne sont de toute façon pas réparables. Alors, au moment où EDF et Ségolène Royal décident de faire fonctionner les centrales très au-delà des 30 ans pour lesquels elles ont été conçues, hein, c'est-à-dire que 40 ans, c'est acquis, et là, on se pose la question de 50 ans, alors qu'au départ, elles avaient été fabriquées pour 30 avec des pièces foireuses, ces informations sont particulièrement inquiétantes, nous dit Sortir du Nucléaire. Eh ben oui, particulièrement inquiétante. Alors sortir du nucléaire pense qu'on peut aussi craindre que ces tricheries ne concernent pas uniquement la fabrication des pièces, mais également les tests et les vérifications effectuées dans les centrales en fonctionnement. Alors la presse est bien inquiète suite à ces informations. Alors bon, elle est inquiète vite fait un peu pour nos vies, hein, parce que tout ça veut quand même bien dire que les centrales sont construites et réparées avec des pièces en carton-pâte, dont personne ne sait combien de temps elles vont tenir, dont en plus pour l'instant on ne sait pas lesquelles des centrales ont des pièces comme ça. Ça concerne des centrales déjà en fonctionnement, ça concerne aussi l'EPR de Flamanville. Ça veut aussi dire que les dirigeants d'Areva s'en foutent royalement, ça veut quand même dire que ces gens sont complètement cinglés, quoi. Ils sont complètement en train de faire des sortes de paris, de parier que ces pièces vont tenir sans en savoir rien du tout.
Se demander si ces gens vivent en France quand même.
Mais
pour prendre un tel risque,
a priori oui, mais juste ils sont vraiment en train de parier, ils sont vraiment dingues, quoi. Et l'enjeu de leur pari, en gros, c'est un gros accident nucléaire, un très gros accident nucléaire éventuellement. Mais c'est quand même pas ça qui inquiète le plus la presse. Parce que le plus gros problème pour la presse, c'est la remise en question de l'excellence de la France en matière de technologie nucléaire, qui, encore une fois, se trouve quand même un peu ridiculisée. Et ça, c'est mauvais pour l'industrie française. Alors, l'EPR de Flamanville est déjà une pub assez pitoyable pour la fameuse excellence française. Je rappelle juste vite fait, hein. Cette EPR avait été commandée à Areva pour être terminée en 2012. Bah, le chantier a pris un peu de retard là. Pour l'instant, au mieux du mieux, il sera prêt en 2018. Il aurait dû coûter 3,3 milliards d'euros. En fait, on s'en sortira pas à moins de 9 milliards, c'est-à-dire 3 fois le prix annoncé au départ. Et donc tout ça avec vraisemblablement des pièces défectueuses. Alors, au moment où Macron essaye à tout prix, fait vraiment tous ses efforts pour vendre un EPR aux Anglais, c'est sûr, ça fait un peu mauvais genre. Et encore une fois, nos vies sont peut-être sérieusement menacées, mais quand même, vraiment, pire que tout, notre industrie aussi.
Alors, c'est la direction de Twistol. On va faire un tour du côté de Caen, qui a la gestion des transports en commun de Caen. C'est un peu l'équivalent du Citral pour Lyon. A demandé à ses contrôleurs et aux chauffeurs de bus de procéder à des comptages de migrants présents dans la ligne de bus 61. Alors, qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette ligne de bus 61? C'est elle qui relie Caen à Ouistreham, je ne suis pas du tout sûr que je prononce bien.
Ouais, c'est ça.
Si.
Ouistreham, donc, qui est une ville portuaire où des bateaux partent direction la Grande-Bretagne. Cette ville devient donc un point stratégique pour les migrants qui tentent de trouver des endroits moins fliqués que Calais pour se rendre en Angleterre. Bon, là, les médias, enfin, tout un fond, la réalité, on a du mal à la mesurer réellement sur ce que c'est sur place, si c'est... jusqu'à 10 personnes qui sont dit on va tenter là-bas, ou s'il y en a effectivement 300, on sait pas trop. Mais voilà, mais que ça n'empêche pas, donc, du coup, Twisto d'obéir sans sourciller aux consignes de la préfecture en faisant passer une note de service qui demande tout simplement à ses agents de, attention, je cite, faire deux contrôles sur la ligne 61 par équipe. La préfecture nous demande de maintenir ce niveau de présence. Si vous suspectez la mise en place de squats, merci de remonter l'information avec le lieu précis. Le tout accompagné, là je cite plus, hein, le tout est accompagné avec un tableau à remplir où il y a par exemple deux colonnes, une avec nombre de migrants contrôlés et une autre avec nombre de migrants verbalisés. Il y a également une colonne avec la date, l'heure, l'arrêt, s'ils vont direction Ouistreham ou s'ils vont en direction de Caen, et donc ces deux autres colonnes avec le nombre de migrants contrôlés et le nombre de migrants verbalisés.
Mais alors, est-ce qu'on sait par exemple comment est-ce que les contrôleurs sont censés reconnaître un migrant?
Alors, par exemple, j'imagine que pour cocher la case nombre de migrants verbalisés, si la personne est verbalisée, elle a dû présenter des papiers.
Encore on voit, parce que il y a une pièce d'identité, mais contrôlée.
Contrôler, au faciès, quoi. J'imagine, enfin, c'est à peu près ça qui d'ailleurs est dénoncé, parce que voilà, c'est quand même des trucs un peu où la direction se demandait s'ils allaient faire ça en pensant que ça allait jamais sortir. Mais là, forcément, du coup, cette note est remontée aux oreilles des syndicats, qui, eux, l'ont fait remonter aux oreilles du CHSCT, qui est le comité d'hygiène, de sécurité...
Et des conditions de travail.
Des conditions de travail, merci. Du coup, le côté un petit peu rassurant de cette histoire, c'est que des chauffeurs de bus et des contrôleurs ont refusé cette consigne. Mais bon, visiblement, quand même, sur toute une chaîne de décision qui a abouti à cette note, ça n'a choqué personne d'aller traquer jusque dans leur squat des migrants dans la galère. La préfecture se défend, elle, comme elle peut. Elle dit, je cite, « Je n'ai pas d'injonction à donner au personnel de Twisto. En revanche, les contrôleurs et les conducteurs de tous les transports publics peuvent apporter un certain nombre d'informations, que ce soit sur les migrants ou d'autres problèmes. Hein. » Je veux dire, ils sont pas fermés, quoi. Je veux dire, ils peuvent faire remonter n'importe quoi. On demande qu'on nous le signale, mais qu'on signale aussi d'autres sujets qui peuvent arriver. La police nationale et la police municipale sont là et ont besoin de ce type d'informations. Donc, vous l'aurez compris, il semble monnaie courante de demander aux contrôleurs et aux chauffeurs de jouer les balances pour les préfectures, parce que j'imagine si ça se passe dans ce département, ça doit se passer à peu près partout. On peut imaginer, par exemple, que quand il y a des gros camps de Roms qui se font expulser, la préf peut demander s'il y a des mouvements dans des lignes qui pourraient laisser penser à une nouvelle installation, par exemple. J'espère juste que peu de chauffeurs se la jouent petit flic, et pour les contrôleurs, j'ai un tout petit peu plus de doutes.
En même temps, là, c'est, en l'occurrence, c'est des contrôleurs qui ont fait sortir la note.
Ouais, on sait si c'est des contrôleurs précisément ou...
Oui, c'est des contrôleurs précisément.
Non, mais oui, de toute façon, après, c'est sûr que les mecs peuvent trouver que c'est des méthodes dégueulasses.
Il y en a des biens.
En tout cas, il y en a des moins mal que d'autres, quoi. Au minimum.
Alors que l'Europe est en train de signer un chèque en blanc à la Turquie suite à l'accord sur les réfugiés, le gouvernement turc de l'islamo-conservateur Recep Tayyip Erdogan plonge encore un peu plus dans la dérive autoritaire. Cela fait déjà plus de 5 mois que l'armée turque occupe plusieurs villes de l'est du pays, à majorité kurde, sous prétexte de combattre le PKK. On ne compte plus le nombre d'exactions commises par l'armée et le nombre de civils tués. Et c'est dans ce contexte que le gouvernement de l'AKP, parti au pouvoir, est en train de mettre en place un projet de révision de la Constitution visant à lever l'immunité, l'immunité parlementaire des parlementaires du HDP, parti d'opposition d'extrême gauche. Celui-ci étant accusé par le pouvoir de connivence au moins idéologique avec les guérilleros du PKK. Ce lundi donc, lors de la séance parlementaire où devait être voté le projet de révision constitutionnelle, on s'est mis, en plein milieu du Parlement, à se distribuer entre parlementaires plus de marrons qu'à la foire à la châtaigne. Alors la séance s'est en effet transformée en pugilat général et plusieurs parlementaires du HDP minoritaires ont donc été blessés. Alors je vous invite à regarder la vidéo sur internet, c'est assez impressionnant de voir des gens d'un certain âge en costard-cravate se déchaîner à ce point-là. Alors pour l'anecdote, la bagarre a commencé après qu'un député du HDP ait cité Oscar Wilde. Certains députés de l'AKP ont commencé à s'énerver en se demandant qui était cette personne, qui n'est même pas turque, pendant que d'autres se demandaient pourquoi il parlait de la cérémonie des Oscars. Donc voilà, ça c'est juste un exemple du niveau culturel des parlementaires du parti au pouvoir en Turquie. En tout cas, suite à la bagarre générale, les députés du HDP ont décidé de quitter l'Assemblée. Et bien que certains parlementaires qui, eux, sont restés ont demandé le report du vote, celui-ci a quand même bien eu lieu. Et le projet de révision de constitution a obtenu la majorité des voix, grâce notamment au GHP, qui est l'équivalent local du PS un peu. Avant, on aurait plutôt dit du Modem, mais maintenant que le PS chez nous, c'est maintenant largement l'équivalent du PS. Concrètement, le vote final de cette nouvelle constitution aura lieu le 18 mai. Là, c'est une fois que ce sera fini. Une fois qu'elle sera votée, elle devrait aboutir à la levée de l'immunité de 129 parlementaires du HDP, qui seront ensuite probablement tous condamnés à de lourdes peines de prison. À cette occasion, un député du HDP a raconté son histoire dans une interview dont je vais vous citer quelques passages parce qu'elle est assez caractéristique du genre de personne qui est actuellement dans ce parti. Alors c'est un parti pro-kurde, mais justement c'est bien parce que cette personne n'est pas kurde d'ailleurs. Elle est turque et effectivement on dit souvent d'ailleurs que c'est un parti pro-kurde, mais en fait c'est un parti qui défend des valeurs de gauche et d'extrême gauche et qui du coup a fortiori soutient les Kurdes qui subissent une répression extrêmement forte.
Déjà c'est un parti qui soutient les Kurdes mais qui soutient un certain nombre de minorités. C'est aussi le seul parti qui peut être contre l'homophobie ou pour les droits des femmes.
Tout à fait, et qui souhaite augmenter le degré de démocratie dans la société.
Qui s'est globalement un peu, c'est un peu le seul qui s'est emparé de thèmes qui sont dans le reste de l'Europe les thèmes d'extrême gauche, quoi.
Voilà, exactement. Mais d'extrême gauche plus à gauche que Mélenchon, par exemple. Voilà. Donc, alors je vais vous parler un petit peu de ce député du HDP qui en est d'ailleurs le porte-parole et du coup qui est turc. Du coup, il s'appelle Soru Surya Önder. C'est un militant turc communiste de longue date. Il a commencé sa vie de militant, comme souvent là-bas, en purgeant une peine de prison de 12 ans après avoir fait partie des gens qui protestaient contre le coup d'état militaire fasciste de 1980. Un petit truc rigolo, il a accusé d'être contre la Constitution. Et quelques années après sa sortie de prison, on lui a demandé de faire partie des gens qui devaient réécrire une nouvelle constitution pour la Turquie. Donc voilà, ça c'est une des ironies de l'histoire. Il a notamment fait une grève de la faim de 50 jours pour protester contre ses conditions de détention. Il a été aussi réalisateur, il a fait 2 films contre la dictature de 1980 qu'on a considéré comme inutile. On lui a dit c'est du passé tout ça. Il a plusieurs fois créé des contacts entre la guérilla du PKK et le gouvernement turc pour essayer de trouver des solutions pacifiques au conflit. Et aujourd'hui, si son immunité est levée, il y a déjà des juges qui requièrent contre lui une peine de prison à perpétuité pour avoir lu une lettre d'appel à la paix lors de la fête kurde du Névrose en 2013. Mais comme cette lettre était signée du fondateur du PKK, Abdullah Öcalan, Voilà d'où vient l'origine de cette condamnation. Donc voilà un exemple de la politique actuellement menée par Erdogan et que la France cautionne pour satisfaire sa stratégie xénophobe de gestion des réfugiés.
Et alors on va vous balancer un petit reportage qui a été fait par rapport à la grève des cantines qui se déroule actuellement à Villeurbanne.
Je travaille depuis la rentrée sur Villeurbanne, dans une des 53 écoles de la ville où peuvent se retrouver maternelles et primaires. Je suis animatrice pendant 2 heures sur les temps du midi et le soir 2 fois 1 heure où tu mènes des activités comme tu peux. On travaille pour la réforme des rythmes scolaires, à la haie, périscolaire, comme tu veux. Moi, le rythme basé sur l'enfant qu'on nous a vendu, c'est de la foutaise. Mais revenons à nos petits moutons. Il y a un mois, on ne nous a plus servi de repas chaud. Et oui, parce qu'il faut dire que nous mangeons les midis au restaurant scolaire en encadrant les enfants. Bien sûr, travail oblige. Mes collègues de la cantine se sont mises en grève. Elles sont 4-5 dans mon école. J'ai mis un mois à sortir mon micro pour les faire parler. L'une d'elles a bien voulu, malgré qu'à ma première demande, elle hésitait. En même temps, je lui montre clairement mon soutien. Et suite à un si long mouvement bloquant les enfants de repas chaud, ça râle tout azimut. Et il faut bien dire que la mairie négocie mollo mollo. Je la remercie d'avoir bien voulu parler et je salue toutes les dames de la cantine et leur exprime un soutien à leur lutte. Chapeau.
Autre grève, celle des cantines scolaires de Villeurbanne. Les agents municipaux chargés de s'occuper des repas des écoliers veulent dénoncer leurs conditions de travail. Ils sont en grève depuis un mois.
Bien écoutez, ce qu'on peut dire, c'est que la grève est bien suivie. En fait, les agents territoriaux de Villeurbanne chargés des cantines scolaires se déclarent grévistes au dernier moment à leur prise de service aux alentours de 11h30. La mairie, les écoles demandent donc aux parents de venir récupérer leurs enfants plutôt que de les laisser à la cantine. Sinon, ils peuvent aussi leur fournir des pique-niques et des repas froids. Et alors, au niveau des négociations, une réunion a eu lieu hier. Les propositions de la mairie ont été jugées insuffisantes. La mairie qui souhaiterait continuer à négocier, mais école par école, je vous rappelle que les ATSEM réclament toujours une hausse de salaire ainsi que plus de personnel pour des cantines qui sont déjà surchargées.
Bonjour, je travaille dans un restaurant scolaire, dans une école à Villeurbanne. On est un agent de pôle de service, on appelle ça exactement. Les choses ont bien changé. C'est vrai qu'avant, on choisissait notre poste, c'est-à-dire soit en maternelle, soit en cantine, soit en primaire. Et maintenant, non. Alors, pour être ASEM, il faut avoir le concours. Le CAP Petite Enfance et le concours. Et maintenant, nous, qui n'avons pas le concours, même avec l'ancienneté, nous n'avons pas pu passer directement en maternelle, si on le souhaitait. On est polyvalente, on est en primaire, en maternelle, pour l'entretien. Et après, on jongle sur le restaurant scolaire jusqu'à 15h30.
Reportage au cœur d'une valse de ballet, suite à la reprise du travail des grévistes.
Et là, c'est que ça, l'eau a vraiment débordé, la goutte a débordé, beaucoup d'absentéisme qui n'est pas du tout remplacé. Alors déjà, suite au changement de pôle de service, là, comme on appelle maintenant ce système.
C'était quand le changement ?
Oh, ça fait 6 ans, 7 ans à peu près. À peu près, hein. Eh bien, écoutez, voilà, on se retrouve des fois avec 3-4 personnes non remplacées. C'est trop fatigant. Déjà, ce nouveau système est fatigant. Mais bon, si encore on serait remplacé, on peut dépanner une collègue 2-3 jours, peut-être exceptionnellement une semaine. Mais là, on a eu des longues maladies qui n'ont pas été remplacées. Parce que maintenant, étant donné qu'aussi, quand un médecin fait des des arrêts de maladie comme ça, de semaine en semaine, il paraît qu'ils ne peuvent pas remplacer. Alors ça, on attend de voir, justement. On fait, et puis aussi, bien sûr, en plus du remplacement, pour l'augmentation des salaires. Ça fait un bout de temps qu'on n'a pas été... augmenté. Donc, voilà, mais... En premier lieu, c'est l'absentéisme. Ensuite vient tout le reste, bien sûr, les conditions de travail, et ainsi de suite. Voilà.
Et la grève, elle a commencé quand ?
Je crois à peu près vers le 16 mars, à peu près. Après, ça s'est plus aggravé, tout ça. On a été, je crois que c'est la première fois en plus de 20 ans qu'on est aussi solidaires. Hein. On a eu toujours un peu des mouvements de grève, une fois, un jour ou deux, un jour, passe comme ça, sans plus. Mais là, c'est vraiment, les gens n'en peuvent plus. Hein. En plus, les écoles s'agrandissent et on voit pas le personnel qui suit. Et puis, comme on dit, les gens sont fatigués ou absents. Hein. Chacun est libre. Hein. On est malade. Hein. Mais alors donc, après, il y a de la tension dans l'équipe aussi. Sans le vouloir, on regrette après certaines choses. Ça a été bien suivi. Hein. Et puis aussi, il y a beaucoup de services aussi qui ont suivi à la mairie. Mais bon, ils ont plus, ils nous ont soutenus un peu aux réunions. Mais là, c'est les écoles. Hein. C'est vraiment le restaurant scolaire. On a été, même les ASEM, mais je crois là, le restaurant scolaire...
Vous avez décidé d'ébrayer tous les midis, ce qui fait qu'il n'y a pas de, qu'il n'y a que des repas froids qui sont servis pour les enfants. C'est les enfants qui amènent leur pique-nique. Pourquoi vous avez choisi de faire ça ?
Eh bien, écoutez, justement, pour bloquer, parce que bon, on a fait un jour, deux jours, mais malheureusement, on peut pas se permettre de faire grève tout le temps. Hein. Alors, on débraye deux heures, une heure, un jour sur deux. On s'arrange entre nous pour débrayer. Hein. Parce que bon, il y a des personnes, des femmes seules, elles peuvent pas se permettre de faire grève tous les jours. Donc, on s'arrange. Certaines écoles s'arrangent. Nous aussi, on essaye de faire un maximum. Et là, je crois que c'était le moment de se faire bien entendre ce qu'on veut. Et puis voilà. Alors, des soutiens des parents. Bon, ben, il y en a oui, il y en a non. C'est comme malheureusement certaines personnes, le personnel nous regarde d'un air, d'un autre air. Hein. C'est dommage, ils comprennent pas, hein, parce que ça nous fait pas plaisir hein, de perdre de l'argent. Hein, ça nous fait pas plaisir. On aimerait faire notre travail. Point, c'est tout. Hein. Et donc là, on perd pas mal d'argent. Voilà. Alors, c'est malheureux que certaines personnes nous comprennent pas, nous regardent d'un air. D'autres personnes nous disent même plus bonjour. Pourtant, la grève, c'est un droit du salarié. Et puis voilà, hein, tout le monde a droit à la parole. Et puis voilà, hein, et c'est un droit, la grève. Hein, voilà.
Alors là, c'est les organisations syndicales qui ont posé un préavis de grève jusqu'à fin mai.
Oui, tout à fait, jusqu'à fin mai. Et là, bon, ben, y a eu des réunions ces jours-ci. Alors, on attend le verdict. Voilà.
Et est-ce que quand il y a les appels pour manifester contre la loi El Khomri, vous faites grève aussi, ou ça rentre aussi dedans, ou c'est vraiment séparé?
Non. On a un peu mis un peu tout ça là-dedans, mais bon, c'est vrai qu'on pense un peu moins, mais c'était très important, bien sûr aussi. Hein. Les syndicats en ont parlé aux réunions. Oui. Que ça s'arrête au plus vite hein, et qu'on ait quand même pas mal de renforts. C'est tout ce que c'est la première chose qu'on demande. Et puis bien sûr l'augmentation des salaires et puis ensuite diverses petites choses qu'on a demandées. Hein, on en a profité pour demander autre chose. Hein. Mais d'abord c'est l'absentéisme vraiment qu'on n'en peut plus. Hein, parce que comme on dit, c'est un cercle. Après on est crevé. Alors ça arrête jamais parce que la personne qui n'était pas là, on a dû faire le travail de 2-3 personnes. Et ensuite c'est nous qu'on est malade ou fatigué. On est épuisé. Des fois c'est même pas par maladie, c'est par épuisement. Donc c'est pas juste hein, tout ça. Et on a une vie de famille hein, on sort du travail, on a une autre vie hein, chez nous hein, comme tout le monde hein. Donc voilà, et en espérant que tout ça se règle au plus vite.
Alors l'ONG Greenpeace a publié, c'était avant-hier, des documents confidentiels provenant du projet d'accord de libre-échange commercial TTIP, ce qui est le sigle, alors celui-là je crois que c'est le sigle francophone, mais celui sous lequel il est un peu plus connu, ça serait le anglophone, qui est TAFTA. Donc, cet accord en projet, ça serait une sorte d'accord que les États-Unis et l'Europe nous bidouillent sans arriver à le finaliser depuis déjà 3 ans. Un accord ultra secret. En tout cas, le projet est ultra secret. Jusqu'à lundi, jusqu'à ce que Greenpeace arrive à en sortir des bouts. Les journalistes, les gens, vous, nous, personne ne pouvait savoir rien de ce qu'il y avait dedans. Certains parlementaires européens, mais alors encore uniquement ceux de la Commission du commerce international, pouvaient avoir accès au projet tel qu'il était, parce que quand même, en vrai, pour arriver à négocier, il faut quand même qu'il y ait 2 ou 3 personnes qui sachent un peu ce qu'il y a dedans. Pour avoir accès, ils pouvaient rentrer dans une pièce où il n'y avait pas de fenêtre, il fallait qu'ils aient laissé à l'entrée leur téléphone ou tout ce qui aurait pu leur permettre de prendre une photo, et c'est pas une blague, hein, c'était vraiment, vraiment comme ça. Alors, on pourrait se demander quand même, parce que tout ça se passe donc entre les États-Unis et l'Europe, donc des pays démocratiques, hein, dans lesquels théoriquement les dirigeants sont les représentants du peuple, blablabla, ils sont censés appliquer la volonté du peuple, tout ça. Alors bon, on se fait pas non plus des tonnes d'illusions, mais enfin quand même, c'est pas tout le temps que le degré de franchise dans le à propos du fossé qui sépare les dirigeants et les dirigés est à ce niveau-là. Là, c'était quand même vraiment assez exceptionnel. Bon, en tout cas, maintenant, là, depuis lundi, on a une idée un peu plus précise, même pas mal plus précise, de ce qu'il y a précisément dans la...
Ah, tes souhaits.
Pardon.
De la morve dedans.
Non, ça va. De ce qu'il y a précisément dans l'accord. et donc, c'est Greenpeace Pays-Bas qui a réussi à se procurer, d'après eux, 2/3 du traité. Et tiens, surprise. Alors le résumé que fait Greenpeace, hein, bon moi j'ai pas lu les 248 pages qu'ils ont sorties, mais le résumé que Greenpeace en fait, bah en gros ça confirme, disent-ils, les menaces sur la santé, l'environnement et le climat, toutes choses dont on pouvait se douter. Alors, certains, dont les plus traditionnalistes d'entre nous, ou ceux et celles de nos auditrices et auditeurs qui sont à la FNSEA, vont sans doute tempêter contre ce qui pourrait être dans ce traité à propos de la disparition des appellations d'origine contrôlée. Et donc, les Amerlocs, s'ils veulent, ils pourront faire du comté, ils pourront l'appeler comté, quand bien même il n'est pas fabriqué en Franche-Comté. Ils pourront faire de la feta, quand bien même ils ne la feraient pas en Grèce. Ils pourront faire du pastis, quand bien même ils ne la feraient pas à Marseille.
Ah non, ça non.
Et pourtant... Bon, nous, en vrai, c'est pas vraiment ça qui nous passionne, hein, parce que, je veux dire, le nom qu'on met sur les choses, c'est pas l'essentiel, c'est une sorte de droit d'auteur, ça nous concerne pas vraiment. Mais le résumé de ces 248 pages que Greenpeace a publié, c'est quand même plutôt bien pire que ça. Ça concerne énormément les normes environnementales, les normes pour la protection de la santé publique, tous ces machins qui, en réalité, finalement, freinent le commerce et qui, du coup, sont sérieusement revus à la baisse. En gros, l'idée, c'est que les pays qui voudront exporter des saloperies qu'ils auraient faites, mais ces saloperies répondant à leurs normes à eux, pays exportateurs, ils pourraient le faire et le pays dans lequel ils exportent serait obligé de recevoir les machins, puisqu'il y a des normes dans le pays exportateur qui correspondent. Je suis à peu près clair ou pas tant ?
Est-ce que c'est ça dont on parle quand on parle du poulet à la javel, là.
Ouais, c'est ça.
Voilà.
C'est ça. C'est que si dans un pays c'est légal le poulet à la javel, il aura le droit d'exporter ses poulets à la javel dans tous les autres pays, y compris ceux qui diraient non, mais nous on n'a pas envie de bouffer du poulet à la javel. Dans ce cas, le pays où le poulet à la javel n'est pas légal sera obligé de pondre une loi pour dire qu'ils autorisent le poulet à la javel.
Et ce sera peut-être pas étiqueté poulet à la javel.
Alors, bien sûr. Un autre aspect de ce TAFTA, c'est que c'est un traité ultra anti-étiquetage, quoi. C'est que du coup, il y aurait plutôt rien d'étiqueté, à part, le merchandising, là, c'est pas ce que je veux dire.
Oui, la manière de faire des étiquettes pour faire vendre.
C'est ça. Mais bien sûr, le pays qui va se retrouver à devoir accepter des produits pourris et dangereux, mais qui coûtent moins cher à produire, il va de toute façon les autoriser et se mettre à les produire, parce que quand même, ce qui est le plus important dans la vie, c'est quoi ? C'est la compétitivité. Et donc voilà, du cancérigène, du machin aux hormones, du truc, toutes les saloperies de toutes les saloperies qui peuvent être très mauvaises pour la santé. Et donc,
avec plus d'étiquetage, ce qui fait qu'au moment de choisir le produit dans le supermarché, bah, vous aurez quand même bien, bien du mal à savoir ce que vous mangez. Du coup, tout le monde condamné à la filière courte bio et à la MAP, et bah, j'aime mieux vous dire que pour nourrir la population entière, ça ne va pas être fastoche. Alors, sauf que non. Parce que hier, notre bon président François Hollande a déclaré que, ouvrez les guillemets, la France, à ce stade, refermait déjà les guillemets des négociations, disait, ouvrez les guillemets, bon là je vais arrêter de vous dire les guillemets, mais en gros que la France, pour l'instant, à ce stade, disait non au traité de libre-échange atlantique.
Attention.
Nous ne sommes pas pour le libre-échange sans règles, a assuré François Hollande. Alors certainement à un moment où Macron et Valls avaient le dos tourné, hein, pour qu'ils se permettent de dire des trucs pareils, avant d'ajouter... Jamais nous n'accepterons la mise en cause des principes essentiels pour notre agriculture, notre culture, pour la réciprocité, pour l'accès au marché public. Monsieur Hollande, nous dit, je ne sais plus quel article que j'ai pompé, a précisé que la France a posé des principes dans le cadre des négociations commerciales internationales. Je pense aux normes sanitaires, alimentaires, sociales, culturelles, environnementales. Jamais nous n'accepterons. Putain, c'est François Hollande qui nous fait encore des promesses, quoi. Alors, promesses de socialistes, hein, tout le monde sait ce que ça veut dire. Non, sans blague, on dirait que Hollande... alors, pas que Hollande ne va pas signer ce traité, ou peut-être qu'il va juste retarder un peu la signature jusqu'à au-delà de 2017. On dirait quand même qu'il commence un petit peu à capter, qu'il a beau faire tout ce qu'il peut pour être de droite... Et eh bien que les gens de droite continuent à pas vouloir voter pour lui. Alors du coup, on réessaye un peu de dire des trucs de gauche, comme ça peut-être qu'une petite partie des gens qui ont voté pour lui en 2012 pourraient réenvisager de refaire ça à l'occasion en 2017. Et donc pour ça, il est prêt à dire n'importe quoi, y compris des trucs qui sont pas crédibles du tout. Mais alors voilà, bah, hier par exemple, à l'occasion des 80 ans du Front Populaire, il a fait un discours qui disait en substance que Léon Blum, c'est lui. Et là, du coup, maintenant, il essaye de nous faire croire qu'il serait capable de s'opposer au libre-échange, à la loi du marché, aux grandes compagnies, à la finance, pourquoi pas. Mais non, mais il se rend compte que c'est quand même mauvais pour la compétitivité, ça.
Alors, on va se faire un petit paragraphe actualité sociale. Hein, et du coup, c'est les suites de la manif du 28 avril à Lyon contre la loi travail, avec son lot de flics recouverts de peinture et également, du coup, plusieurs arrestations qui ont eu lieu. Le progrès, par exemple, parle de 22 arrestations. La caisse de solidarité, elle, en a 12 de confirmées de manière certaine. Alors forcément, qui dit arrestation dit garde à vue, et même pour certaines personnes, c'est direction le tribunal pour une comparution immédiate. Ce qui nous amène à donc lundi dans les sordides salles du tribunal, où un des arrêtés s'est retrouvé devant le juge. Et comme à chaque mouvement social, la justice nous montre sa grande indépendance vis-à-vis du pouvoir en répondant à l'appel du gouvernement qui demande la plus grande sévérité à l'égard des manifestants énervés. La personne en question a 22 ans, c'est la première fois qu'elle passe devant le juge et lui est reproché, attention, d'avoir jeté des bouteilles sur les flics. Lui reconnaît avoir jeté effectivement deux bouteilles et un pot de confiture, petite précision, mais avoue avoir raté sa cible. Alors, le juge ironise car il était porteur d'un tract de la Caisse de solidarité qui donne des conseils en manif, en lui reprochant de ne pas avoir suffisamment suivi ses conseils. Le procureur n'y va pas de main morte non plus. Là où le prévenu doit se mordre les doigts aujourd'hui, c'est qu'il s'est fait arrêter car il allait se plaindre aux flics d'avoir reçu des morceaux de grenades de désencerclement dans les jambes. Et c'est donc dans sa grande clémence habituelle que le tribunal l'a condamné à 3 mois de prison avec sursis pendant 5 ans.
Oui, c'est. Il a jeté un pot de confiture. C'est un peu de la confiture au cochon, au porc.
Merci. Eh ben, peut-être que tu vas pouvoir ramener plein de pots de confiture, puisque une fois n'est pas coutume, on va vous déconseiller d'aller à une manif. Je vais y arriver. Alors non, la manif pour tous n'est pas de retour, mais par contre, le syndicat Alliance, syndicat à la droite de la droite majoritaire chez les gardiens de la paix, appelle à la mobilisation le 18 mai pour dire stop à la haine anti-flic. Alors, de l'aveu même du syndicat, les flics n'en peuvent plus de cette, je cite, défiance relayée jour après jour contre des policiers fatigués, épuisés. Bon, la bonne nouvelle là-dedans, c'est que les flics sont à bout. Allez, encore un mois de manif où on s'amuse et ils vont tous finir en arrêt maladie. Donc, les flics n'en peuvent plus. À chaque manif, les manifestants leur rappellent la dure réalité. Tout le monde déteste la police, qui est le nouveau slogan en vogue dans les manifs en ce moment. Alors, mais la goutte d'eau, pour eux, c'est quand même la CGT qui s'y met à leur tour avec leurs affiches dignes d'un comité de mobilisation anti-répression. Durant leur manif, ils comptent également dénoncer la stigmatisation dont ils sont victimes et vont dénoncer cet acharnement qui vise à faire croire que les policiers sont des brutes sauvages qui frappent aveuglément sur la jeunesse. En l'occurrence, c'est plutôt la jeunesse qui va finir aveugle avec leur saloperie de flashball. Voilà. Et ben, voilà une manif où on vous déconseille d'aller. Par contre, les conseils qu'on peut donner, c'est mouvement social, la rappeler que la caisse de solidarité existe, qu'elle a un numéro de téléphone que j'ai pas en tête, mais que vous pouvez facilement trouver sur internet, notamment sur le site Rebellion. Et comme quand même plusieurs fois on a rappelé ce numéro et rappelé que vous pouvez faire appel à eux, ils ont aussi vraiment vraiment besoin de vous, parce que la caisse de solidarité a besoin d'argent en temps de mouvement social. Du coup, vous pouvez leur faire des dons. Du coup, n'hésitez pas, sortez vos chéquiers. Voilà, vous avez répondu présent pour qu'on soit propriétaire. Vas-y. Et vous pouvez répondre présent pour refiler de la thune à la caisse, c'est toujours, toujours bienvenu.
Alors, entre-temps, on a retrouvé le numéro de la caisse de solidarité. On peut profiter pour le donner en direct. C'est le 06 43 08 50 32. Je répète, 06 43 08 50 32.
Et voilà. Et il est 19h40.
Touche à la fin de ce canu info.
Touche à la fin. Est-ce qu'on avait un truc de ce qui se passe samedi soir, par exemple?
Alors, samedi soir, oui. Alors, par contre, je suis désolé, c'est que j'ai plus l'heure exacte du début. Tu ne l'as
19h.
Pas. Voilà, ok, très bien. Et bien, samedi soir, au Centre culturel Mésopotamie, qui se trouve rue Mazagran, dans le 7e, il y aura à 19h une conférence, ou plutôt une sorte de bilan de personnes qui sont allées dans la partie kurde de la Turquie dont je parlais tout à l'heure, qui est actuellement sous le feu de l'armée turque, et qui vont parler un petit peu de leur expérience là-bas et de la lutte sur place des gens qui se défendent contre cette répression et de la répression elle-même et tout ça. Je vous encourage à y aller parce que je pense que ça va être très bien.
C'est des gens qui font partie du collectif Never Neyok, qui tiennent un blog, qui tenaient un blog, je ne sais pas s'il est toujours d'actualité.
Qui tiennent le blog Never Neyok, qui veut dire quoi de neuf en turc.
Et l'adresse exacte, c'est 11 rue Mazagran.
11 rue Mazagran. Merci, heureusement qu'il y a des gens qui sont précis.
Il y a des gens qui ont internet sous la main. Quoi faire d'autre? Si, bah, en ce moment, il y a quand même l'ENS qui est occupé. Et quand les étudiants de l'ENS occupent...
Certaines salles de l'ENS.
Ouais. Et ben, ils rigolent pas avec l'organisation, ces gens-là. C'est-à-dire que sur Rebellion, vous pouvez voir, il y a un espèce de tableau comme ça avec les jours exacts ou les heures avec des trucs de discussion et tout. Et notamment, il y a une discussion à la salle occupée de l'ENS. Vous trouverez plus de précisions sur. Ah, c'est la salle F01 à l'ENS de Lyon, qui va parler de géographie des migrations et cartographie prescriptive. Moi, c'est un peu compliqué, hein, mais j'espère que ce sera plus compréhensible pour le commun des mortels. Là-bas, donc je pourrais aller y faire un tour. C'est ce vendredi 6 mai de 14h à 17h.
Et ben voilà, bah écoutez, il est temps de rendre l'antenne, hein, parce que si on n'a pas le temps de s'écouter un petit peu de musique avant d'entendre parler Idées Noires, l'émission de la CGA, ça nous manquerait.
Et merci de nous avoir écoutés.
Et à la semaine prochaine.
Ciao.
Ciao.